ici, avec nous en tout cas, qui est donc forestier, qui connaît bien les forêts, les problématiques forestières dans le coin, et qui vous parlera de la valeur qu'ont nos forêts ici, et que peut-être il y a mieux à en faire que de les couper, de faire des coupes rases pour faire pousser à la place des champs de panneaux photovoltaïques. Voilà. Oui, on vous rappelle que tout ça, ça se fait à prix libre, avec une participation libre et consciente des gens, ne serait-ce que pour participer aux frais de déplacement de nos intervenants. Et donc, une petite pièce pour ça à l'entrée, comme d'habitude. Merci. Juste pour planter un petit peu le panorama du BUESH, un seul chiffre. Il est prévu donc dans la loi d'accélération, chaque région et chaque département a un quota en fait de nouvelles installations à mettre en place. Pour les Hautes-Alpes, il y a 650 mégawatts qui sont prévus de nouveaux raccordements. Ça vous dit peut-être pas grand-chose. En gros, il faut multiplier à peu près par deux dans le meilleur des cas pour avoir l'équivalent en hectares. Donc, vous voyez ce que ça donne. Et sur ces 650 mégawatts. Il y en a 450 dans le BUESH. Voilà. Sachant que les 200 autres, qui sont donc sur Gap, Embrun, Briançon, eux, ils sont fléchés sur des toitures. Donc ça, déjà, c'est vu comme ça aujourd'hui par la préfecture. On mettra sur des toitures 200 MW, ce qui n'est pas gagné, hein, parce que 200 MW de toiture, ça fait beaucoup, beaucoup de toitures. Je calculais rapidement, ça fait à peu près 2500 toitures de 50 mètres par 20. Toiture de 50 mètres par 20, il y en a peut-être quelques, sur certaines zones commerciales, ça m'étonnerait qu'il y en ait 2500 dans le nord du département. Bon, et pour nous, c'est prévu sur des parcs au sol, donc 450 mégawatts, voilà, en gros un millier d'hectares. Voilà, ben, je vais laisser la parole donc à nos intervenants. Finalement, Lola ou Loïc, comment ? Ah ben, vous avez...
Oui, bonsoir à toutes et tous. Donc je suis Lola, comme m'a très bien présenté, journaliste pour la revue Silence, et j'ai coordonné ce dossier qui est sorti en septembre, qui cherche à informer et à alerter sur les conséquences de ces projets dits agrivoltaïques. Moi, je vais vous présenter globalement qu'est-ce que c'est que cette notion qui est du coup très peut être très critiquable. À première vue, c'est une idée qui est assez séduisante, puisque les fondateurs de ce terme, notamment Christian Duprat, qui était à la base un chercheur en agroécologie, vendait cette idée comme quoi les panneaux solaires pouvaient faire de l'ombre sur des terres agricoles pour protéger, pour rendre service à l'agriculture avec tout un tas de bienfaits, soi-disant pour le bien-être animal, pour protéger les pâturages ou les cultures de la sécheresse, voire même améliorer la qualité du fourrage. Et donc l'idée, ça serait qu'on pourrait, sur une même terre, associer une production alimentaire, agricole, et une production d'électricité. Donc étant donné qu'on a besoin d'énergie renouvelable, on pourrait être complètement enthousiaste sur ce concept. En l'occurrence, ce n'est pas trop notre position. Ça pose pas mal de questions. Première chose, c'est qu'en fait, c'est un monde... La production d'électricité, c'est une activité extrêmement rentable qui génère extrêmement... de bénéfices, et donc en fait ces projets sont une manière de spéculer très clairement sur la terre agricole, et ça pose question de faire réellement une compétition complètement inégale avec l'agriculture, puisqu'en fait on ne peut pas cultiver aussi facilement ou faire de l'élevage aussi facilement sous les panneaux. Et donc pour commencer, il faut avoir conscience que quand on, par exemple, si on possède des terres, louer des terres pour faire un bail rural à un agriculteur, généralement ça peut rapporter 150 euros par hectare et par an, si c'est pour implanter des panneaux photovoltaïques, on est au minimum sur 1500 euros par hectare et par an. Donc des grands propriétaires qui possèdent des centaines d'hectares, vous voyez bien qu'on arrive directement à des sommes très grandes et ça peut aller jusqu'à, enfin, très facilement à 2500 euros, 3000 euros par hectare et par an, et on a des fois des sommes beaucoup plus gigantesques que ça. Donc quand ces sommes d'argent arrivent dans un monde agricole où toute une partie des agriculteurs sont extrêmement endettés, ont des prix très très peu rémunérateurs et donc des difficultés à vivre de leur activité, on peut bien voir que ça peut être extrêmement ravageur et menacer complètement notre agriculture en France. Et c'est ça qui est une des principales raisons pour laquelle ça nous inquiète beaucoup. Concrètement, voilà, l'agrivoltaïsme, ça ressemble à quoi ? Ça peut se faire sur des terres pour verdir un peu les projets photovoltaïques dans des forêts. Ça peut aussi se faire une fois la forêt rasée, quoi, d'imaginer qu'on met des panneaux et ensuite qu'on va faire de l'agriculture ou de l'élevage en dessous. Généralement, c'est des panneaux qui sont surélevés, plus ou moins hauts, si c'est des moutons ou des vaches en dessous. Ça peut être aussi des panneaux plus écartés pour permettre le passage de machines ou des panneaux au-dessus d'arbres fruitiers, par exemple, ou de serres agricoles. Apparemment, vous en avez dans la région. Concrètement, la DME, alors même si les industriels de l'énergie vantent tous les bénéfices que ça pourrait apporter à l'agriculture, leur mot, voilà, c'est de parler de synergie entre la production d'électricité et la production agricole, la DME constate plutôt que, au mieux, ça ferait pas de... ça maintiendrait, ça ne ferait pas diminuer l'activité agricole, mais que bien souvent, ça l'a fait concrètement diminuer. On a dans les Pyrénées-Orientales une étude qui a analysé qu'est-ce que devenaient les serres qui étaient recouvertes de panneaux photovoltaïques, et on constate que deux tiers des serres ont diminué, voire complètement arrêté l'activité agricole. Et on a la Confédération paysanne qui a fait une exposition de photos assez... emblématique là-dessus, si vous voulez feuilleter le numéro de silence qui est sur le stand, on a vraiment des images des serres qui sont gigantesques, hein, c'est pas des petites serres, c'est sur des... En l'occurrence, en Maine-et-Loire, plus de dizaines d'hectares qui sont complètement désertes avec des sols morts, quoi, clairement. Et c'était une culture à la base de fraisier qui a été complètement abandonnée. Et une fois que les panneaux sont installés, on imagine mal qu'ils vont être désinstallés pour réinstaller la production agricole, puisque personne ne surveille ça, il n'y a pas de conséquences derrière, quoi. Première chose, c'est que ça vient faire compétition avec des moyens financiers complètement inégaux entre l'agriculture et l'électricité, et que c'est extrêmement dur de résister en tant qu'agriculteur si on est dans une situation financière très, très défavorable. Et que ça va potentiellement amener tout un tas de contraintes dans l'agriculture. Il faut aussi avoir conscience qu'une fois qu'on a installé des panneaux, déjà, certaines fois, il faut adapter son activité agricole. Moi, j'étais fait un reportage dans le Loiret, où c'était un agriculteur qui s'est mis à faire de l'élevage de vaches alors qu'il ne faisait pas du tout ça, parce que c'était plus facile pour mettre des panneaux mettre des panneaux sur ses terres. Et puis une fois que les panneaux sont installés, on peut pas facilement se dire qu'on va changer d'activité derrière, puisque les panneaux ont été faits pour faire pâturer des vaches en dessous, et on peut pas se dire finalement je vais cultiver des céréales ou faire du maraîchage sur ces mêmes terres une fois qu'ils sont installés. Donc ça aussi c'est quand même assez contraignant. Une deuxième conséquence sur l'agriculture, parce qu'il faut savoir que j'ai oublié de le dire, mais c'est du coup c'est dans toute la communication qu'il y a derrière cette notion que nous, l'agrivoltaïsme, on considère que c'est un mot qu'il ne faut pas utiliser, parce qu'en fait, ça laisse croire que ça serait bénéfique pour l'agriculture de mettre des panneaux solaires sur des terres agricoles. Et on constate qu'il y a plutôt des impacts assez négatifs. Mais l'argumentaire qui est utilisé derrière, c'est aussi on va aider les agriculteurs, puisqu'ils sont, pour certains, en difficulté financière, et ça va leur permettre d'avoir une source de revenus supplémentaire. Quand on est très endetté, concrètement, pour un agriculteur, ça peut, être nécessaire s'il est vraiment, enfin, être une bouffée d'air, mais l'autre conséquence que ça peut avoir, c'est que ça va faire flamber le prix des terres agricoles. Et ça, voilà, je vous ai donné les montants pour louer des terres avec des panneaux solaires par rapport à des terres pour de l'agriculture. Donc évidemment, ça déstabilise complètement le prix des terres agricoles. Et ça, si on veut transmettre à de jeunes agriculteurs la ferme hors cadre familial ou pour des jeunes qui veulent s'installer, bah ça, voilà, ça rend les installations beaucoup plus compliquées, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, avec la moitié des agriculteurs qui partent à la retraite d'ici les 10 prochaines années, on a absolument besoin de plus d'installations. Et puis Loïc nous en parlera après, mais il y a eu tout un combat de l'industrie et des lobbies de l'agrivoltaïsme pour faire croire que c'est pas de l'artificialisation des terres, que ça serait des installations réversibles, mais ça reste voilà, des piliers en acier assez gigantesques, enfin assez grands, et parfois même avec des fondations en béton. Enfin, selon les projets, ça peut être plus ou moins impactant, mais ça reste des installations industrielles qui voilà, sont détruisent le paysage, en tout cas de campagne que l'on connaît, et sont pas facilement, en tout cas, démantelables. Voilà, donc ça, c'est des principales conséquences sur l'agriculture. On a la question aussi de la précarisation des paysannes et des paysans, de quelle dépendance supplémentaire ça leur ajoute de tirer leurs revenus d'une industrie de l'électricité. Et quelles questions ça pose par rapport à l'autonomie, mais je te laisserai, Loïc, aborder ces points-là. Concrètement, ce que ça soulève, ces projets, c'est qu'en fait, la situation financière des agriculteurs et des agricultrices aujourd'hui, elle est extrêmement fragile, et ils sont du coup très très facilement achetables. Et pour les industriels de l'électrique, c'est une stratégie extrêmement rentable de tirer profit de cette situation désastreuse et de se présenter comme les sauveurs. Alors que on aurait tout un tas de mesures politiques qui permettraient d'assurer des revenus dignes aux agriculteurs et qui pourraient leur permettre de se rémunérer dignement de leur travail, mais ce n'est pas les choix politiques, évidemment, qui sont faits aujourd'hui. Une autre chose qu'il faut... qui sont souvent utilisées par les développeurs, j'ai pu interroger une autre personne qui a travaillé depuis l'intérieur, qui est un peu complémentaire de Guillaume, elle s'appelle Valentine, elle n'a pas pu être avec nous ce soir. Elle était, elle, prospectrice dans une boîte de développement de projets photovoltaïques sur des terres agricoles, entre autres. Et voilà, donc elle racontait un peu toutes les techniques pour séduire les élus et aussi les agriculteurs et les agricultrices. Alors souvent, elles envoient une petite jeune femme déjà toute mignonne pour parler à ces personnes-là, mais aussi se baser sur des études qui sont... faut avoir conscience qu'aujourd'hui, on a très très peu d'études fiables sur le sujet, sur quelles conséquences, quels impacts ça va avoir sur l'activité agricole d'installer ces panneaux solaires, sur la question de l'eau, de la pluie, de tout, parce que les industriels vantent que ça va améliorer le forage, tout ce que je vous ai dit, que ça va protéger la sécheresse, mais pour soutenir ces arguments-là, ils ont très très peu d'études sur lesquelles se baser, et ils vont quand même utiliser des études qui sont très courtes, qui ont été souvent soit financées par eux-mêmes, du coup on peut s'interroger sur la fiabilité des résultats, ou alors quand c'est des études scientifiques, il y a aussi... de recherche publique, il y a aussi énormément de partenariats avec des organismes privés. On a donc là, par exemple, l'INRAE, qui est l'Institut National de Recherche dans l'Agriculture et l'Environnement, qui a passé tout un tas de partenariats avec Sun Air, Photosol, Engie Green, qui sont que des industriels de développement d'électricité. Et donc ces recherches aussi publiques-privées sont très développées. On a aussi l'IMBE, qui est l'Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie, qui a passé un partenariat avec Total Énergie Renouvelable. Donc ensuite, c'est sur ce genre de recherches qu'ils peuvent s'appuyer. Et voilà, et puis évidemment, ils sélectionnent les éléments qui les intéressent, ils isolent le graphique qui va permettre de démontrer ce qu'ils veulent démontrer. Mais elle était très gênée elle-même de faire ça, puisque venant d'études scientifiques, elle était vraiment consciente que ces études n'étaient pas du tout satisfaisantes d'un point de vue même scientifique. C'était pas très honnête de se baser là-dessus. Je vais peut-être vous laisser la parole. Faut savoir que ces projets aussi sont sur des terres agricoles. Ça s'est développé depuis 2-3 ans, en fait, depuis 2021, cette accélération et cette ruée des industriels sur les terres agricoles. Avant, en tout cas jusqu'au moins 2009, il me semble, c'était complètement interdit. On n'imaginait pas mettre des panneaux solaires sur des terres naturelles, qu'elles soient forestières, agricoles. On en mettait sur des zones déjà artificialisées, sur des toitures. Et en fait, il en reste plein des zones comme ça. On n'a absolument pas toutes remplies de photovoltaïques. On a aussi la France qui a fait très peu d'efforts par rapport à d'autres pays, même européens, pour développer le photovoltaïque sur ces terres-là. Et là, on a des industriels qui ont réalisé que c'était en fait des surfaces beaucoup plus avantageuses pour eux, dans le sens où les terres agricoles, quand c'est sur des propriétaires qui ont plusieurs centaines d'hectares, c'est des surfaces beaucoup plus grandes, généralement aussi très planes. Du coup, c'est beaucoup plus simple pour eux de faire un seul gigantesque projet. Il faut imaginer que c'est au moins souvent des dizaines d'hectares, ça peut aller jusqu'à plusieurs centaines d'hectares. Moi, dans le Loiret, j'avais fait un reportage, c'était Total qui étudiait une zone d'étude de 200 hectares de panneaux, quoi. Alors peut-être que le projet final en ferait moins, mais ça reste des surfaces assez gigantesques. Et donc, beaucoup moins contraignant pour les industriels et beaucoup plus rentable et très peu de réglementation. Et là, la nouvelle loi d'accélération des énergies renouvelables ne fait que légitimer ces projets et faciliter leur mise en place. C'est aussi pour ça qu'on est là, parce que l'idée, c'est... En discutant aussi avec des gens de l'intérieur, ce qu'ils voyaient, c'est que les industriels voient bien la manne financière que ça représente aujourd'hui, ils savent que ça ne va pas durer, qu'un moment, quand on va en voir pousser partout autour de nous, ça va finir par être réglementé, mais leur stratégie, c'est d'aller le plus vite possible aujourd'hui, avant qu'on soit trop informé, que les habitants, que les élus, que les agriculteurs voient toutes les conséquences que ça pose, pour que, une fois que c'est installé, c'est trop tard, et ils ont pu faire leurs bénéfices. Voilà, donc on vient là pour informer de ça, et je vais laisser Guillaume prendre la suite sur différents aspects.
Donc bonjour à tous. Peut-être pour recadrer un petit peu la chronologie des projets, puisque c'est vrai que quand on habite sur un territoire, en général, on est au courant du projet au moment où beaucoup d'étapes ont déjà été réalisées. Donc il y a une phase de prospection qui est réalisée directement par les entreprises qui développent ces projets. Donc c'est les noms que vous entendez régulièrement, ça peut être Valeco, Boralex, enfin c'est des développeurs d'énergie, souvent et éolien et photovoltaïque. Donc cette phase de prospection se fait vraiment entre ces entreprises et soit les collectivités, donc les mairies, soit directement les propriétaires terriens qui peuvent être concernés par ces projets, et vont se clôturer par des signatures d'accords, justement de développement des projets entre les propriétaires ou les personnes concernées et le développeur d'énergie. Et ensuite, une fois que cette phase-là a été sécurisée, il y a toute une étape d'études réglementaires qui vont concerner plusieurs sujets. On va avoir des études d'impact environnemental, des études d'impact paysagère, qui vont regrouper beaucoup de choses, et notamment depuis, si c'est sur terre agricole, depuis quelques années, on a des études préalables agricoles, qui sont en fait des études d'impact agricole, qui vont être obligatoires aussi. Et pour toutes ces études, les développeurs, cette fois-ci, ne vont pas les réaliser eux-mêmes. Parfois, ils internalisent certaines compétences, donc notamment des agronomes pour les sujets agricoles, mais ils vont faire appel à des entreprises privées, qui sont donc des bureaux d'études. Il faut savoir aussi que les chambres d'agriculture, dans certains territoires, proposent leurs services aux développeurs pour réaliser ces mêmes études. On y reviendra tout à l'heure. Et donc j'ai travaillé pendant 2 ans dans un bureau d'études donc agricole qui accompagnait des projets photovoltaïques, mais aussi d'autres types de projets. Et en fait, le but de ces études, c'est de mettre en avant les impacts potentiels d'un tel projet sur des terres agricoles et de trouver des mesures, comme on dit, donc des solutions pour éviter, réduire ou compenser ces potentiels impacts. Très concrètement, dans l'agrivoltaïsme, ça va être mettre au point un projet agricole, donc en sollicitant l'agriculteur du site ou un agriculteur ciblé qui travaillera sur site, l'entreprise qui développe le projet et potentiellement aussi les acteurs agricoles locaux, ça peut être les chambres d'agriculture, ça peut être des associations d'agriculteurs, ça peut être plein de choses, ça peut être le propriétaire aussi, qui peut des fois aussi être l'agriculteur. Et donc c'est pendant ces phases d'études que le bureau d'études va faire le lien entre toutes ces personnes et va formaliser un document qui présente le projet agricole qui sera envisagé sous les panneaux. Il faut savoir que, comme on l'a évoqué, les projets agrivoltaïques, c'est 20 ans renouvelables, donc en général on part sur 40 ans de projet. Et donc il faut bien comprendre que ces études imaginent planifier un projet sur 40 ans, ce qui est très optimiste, on va dire ça comme ça. Pour bien comprendre, ces phases d'études durent en général de 1 à 2 ans. C'est-à-dire que quand vous êtes au courant d'un projet, c'est en général que ces études, notamment agricoles, ont été présentées devant des commissions. Les études agricoles, elles sont présentées devant la CDPENAF, qui est une commission mixte qui regroupe en gros l'ADDT, les chambres d'agriculture et des acteurs agricoles ou des acteurs du territoire, qui peuvent être variés en fonction du territoire concerné. Et donc c'est à partir de ce moment-là que l'enquête publique est proposée donc aux citoyens. Et donc vous, en tant que citoyen, vous êtes au courant des projets en général. Il y a au moins eu entre 1 et 2 ans d'études et de travail sur ces projets avant que la population, on va dire, soit au courant officiellement de l'existence de ces projets et donc de leur construction qui peut venir relativement rapidement après ces phases d'études. Il y a énormément de sujets qui peuvent être abordés là-dessus, que ce soit sur les conséquences sur les agriculteurs directement, sur l'agricole ou sur les étapes réglementaires. J'aborderai peut-être pas tout et si vous avez des questions, de toute façon, on pourra y revenir tout à l'heure. Déjà, premièrement, on peut aborder les contraintes directes sur les parcelles agricoles concernées, puisqu'on a donc une double activité qui est prévue sur ces parcelles. Et comme l'a dit Lola, on a une activité de production électrique très rémunératrice et qui vient d'un monde où il y a énormément d'argent, le monde de l'énergie, et une activité agricole en général, pas toujours, mais parfois très peu rémunératrice, surtout si on parle de terres avec des potentiels agronomiques relativement faibles comme les forêts, comme ici en général. Je parle de potentiel agronomique pour l'agriculture, c'est un terme large. Mais voilà. Et donc forcément, au fur et à mesure du développement des études et du développement des projets, on va avoir des compromis qui vont être réalisés à plusieurs étapes. Puisqu'il y a des services instructeurs, donc notamment la chambre d'agriculture et la DDT, qui vont avoir certaines exigences. Il va y avoir le développeur photovoltaïque qui, lui, va avoir des exigences notamment économiques, c'est-à-dire que si un projet n'est plus assez rentable pour lui, il ne s'engagera pas à aller au bout du projet. Et il peut aussi y avoir des exigences de la part de l'agriculteur, forcément. Mais en effet, toutes les paroles ne vont pas avoir le même poids au cours des prises de décision. Et c'est clairement comme ça que sont construites toutes ces études réglementaires, qu'elles soient environnementales ou agricoles. C'est en trouvant des compromis entre les différentes propositions. Il faut bien avoir en tête que tous les projets et toutes les entreprises qui travaillent dans ces mécanismes-là, ont aussi des manières de travailler différentes, et donc il peut y avoir d'énormes variabilités entre différents projets, à plein de niveaux. L'enchaînement de ces compromis va en général se répercuter plus sur l'agriculture que sur le développeur énergétique, de manière très concrète. Déjà en termes de développement des projets, il faut savoir que les développeurs ont une technique de développement qui consiste à lancer énormément d'études sur énormément de projets différents. Ça peut être deux projets qui aboutissent sur une cinquantaine d'études qui sont lancées. Donc c'est-à-dire qu'en fonction des compromis qui s'ajoutent à chaque fois, s'il y en a trop, certains projets vont être arrêtés ou abandonnés, ce qui est humainement assez délicat quand on travaille avec des agriculteurs qui misent clairement soit leur retraite, soit la survie de leur exploitation sur ces projets, comme on l'a expliqué, puisque c'est des projets qui, pour eux, vont être très rémunérateurs. Donc on a une approche humaine qui n'est pas à négliger là-dedans. Et après, on a aussi des contraintes techniques qui vont être nombreuses, dans le sens où, par exemple, si vous êtes éleveur, il va falloir faire beaucoup d'aménagements par rapport à un projet photovoltaïque standard. Ça peut être surélever les panneaux. Là encore, il va y avoir beaucoup de discussions entre le développeur et l'agriculteur. Ça peut être écarter les panneaux pour continuer à passer un outil de travail comme une barre de fauche, qui va permettre de continuer de... Bah, tout simplement de faucher sur les parcelles, avec toutes les contraintes que ça entraîne pour la circulation de l'engin, enfin, il y a énormément de choses à prendre en compte. Et tout ça va en général, quoi qu'on en dise, diminuer les potentialités agricoles de la parcelle. Déjà les figer, comme disait Lola, puisque bah, pendant 20 ou 40 ans, on a des rangées de panneaux photovoltaïques qui vont énormément limiter l'occupation, on va dire, de la parcelle, mais aussi tout simplement en termes de productivité, si on prend l'aspect productivité agricole sur les parcelles, et ben vous avez une perte d'espace avec ben, tout simplement toutes les rangées des pieux, des panneaux, tous les espaces où ce sera difficilement circulable en tracteur, et puis aussi des contraintes après pour les animaux, des contraintes qui sont peu connues, comme on le disait, puisqu'il y a des aspects scientifiques qui sont soit pas étudiés, soit sur lesquels il n'y a pas encore de conclusion. On parlait de l'électromagnétisme l'autre fois, il y a l'aspect de nuisance sonore, parce qu'on ne se rend pas compte, mais c'est vrai que les parcs photovoltaïques font du bruit, moins qu'une éolienne, mais ça fait du bruit. Et puis après, il y a tout simplement l'aspect blessure pour les bêtes. Il y a des exemples d'agriculteurs qui se sont lancés dans ce genre de projet et qui ont décidé d'arrêter, tout simplement parce que les brebis étaient trop souvent blessées. Si le panneau n'est pas assez surélevé, tout simplement, il y a des risques de blessure pour les animaux. Il y a des contraintes, après, un peu plus agronomiques, dans le sens où la circulation de l'eau sur la parcelle ne sera plus du tout la même. Là, encore une fois, on a assez peu de résultats scientifiques sur les conséquences directes, mais on peut bien imaginer qu'en général, l'eau ne tombe pas sous les panneaux photovoltaïques, donc on va avoir de l'eau qui s'accumule sous forme de gouttières dans la parcelle. On peut, en fonction de la nature de la parcelle, on peut avoir du ruissellement, on peut avoir de l'érosion, on peut avoir une distribution de l'eau qui sera plus du tout la même, en tout cas beaucoup moins homogène sur la parcelle. Il y a énormément de contraintes techniques qui vont s'ajouter, qui sont parfois en partie prévues ou pas du tout dans les études, mais des fois qui ne sont pas du tout abordés, tout simplement parce que c'est des choses sur lesquelles on n'a aucune information. Ça, c'était pour les parties un petit peu plus techniques, vraiment agricoles. Il y a beaucoup de suppositions sur les conséquences justement des panneaux. On parlait d'ombrage. C'est là aussi où c'est assez compliqué, puisque même certains agriculteurs qui voudraient voir des panneaux photovoltaïques développés sur leur parcelle, ou avoir tendance à beaucoup plus penser qu'en effet l'ombre va permettre à la prairie de mieux pousser. Les agriculteurs qui ne sont pas concernés vont beaucoup plus penser que les panneaux vont gêner justement la croissance de l'herbe. Et étant donné qu'on n'a pas de base scientifique sur lesquelles s'appuyer, c'est difficile de contredire ou d'aller dans le sens d'un discours ou d'un autre. Ensuite, outre, on va dire, les conséquences agricoles, il y a des conséquences humaines qui ne sont pas à négliger du tout. Je vous ai un petit peu expliqué justement le fait des projets qui s'arrêtent. Alors, quand c'est des agriculteurs qui, on va dire, sont des propriétaires fonciers assez importants et trouvent notamment une rentabilité économique dans des entreprises annexes, c'est, on va dire, humainement peut-être moins dérangeant. Quand c'est vraiment des agriculteurs qui sont en grande précarité économique, et c'est le cas de beaucoup d'agriculteurs en France, c'est toujours humainement compliqué. On va dire qu'ils ne sont pas toujours préparés au fait que le développement des projets peut s'arrêter. Et il faut bien avoir en tête que c'est l'énorme majorité des projets qui se lancent sont arrêtés avant la construction, pour plein de raisons différentes. Ça peut aussi clairement déstabiliser certains territoires. On a parlé tout simplement des prix du foncier. Il y a aussi un aspect beaucoup plus direct, c'est-à-dire que certaines entreprises photovoltaïques ont un démarchage qu'on peut qualifier de très agressif. J'ai déjà travaillé sur des communes où tous les agriculteurs de la commune avaient été contactés par le prospecteur photovoltaïque, où énormément de projets sur la même commune ont été lancés, et on se retrouve avec des situations où des agriculteurs voisins, qui de base s'entendent bien ou pas, des gens de la même famille, des cousins, qui ont des activités agricoles qui sont parfois complémentaires, parfois ils s'arrangent en termes d'utilisation des parcelles, en termes de fourrage, si certains en a plus, il va pouvoir faire du prêt tout simplement à son collègue. On amène des tensions là-dedans lorsque la concentration des projets est telle qu'ils sont plusieurs à être concernés très proches, puisque comme vous l'imaginez, quand on a une rente économique qui tombe, qui est 10 fois supérieure à un un fermage classique, à ce qu'on paye en fermage, mais en tout cas largement supérieur à ce qu'on peut avoir en vendant sa production agricole, et bah, ça va créer des grands déséquilibres, parfois de la jalousie. Là, on arrive sur des choses qui sont plus que techniques, qui sont tout simplement voilà, la relation entre les gens. Et après, si on va aussi un petit peu plus loin, on peut imaginer qu'en termes de prix de vente, un agriculteur qui a 20 hectares de photovoltaïque sur ses parcelles va peut-être avoir un peu plus de marge de manœuvre pour adapter ses prix tout simplement aux distributeurs, ça peut être aux grandes surfaces ou autres, alors qu'un agriculteur qui est déjà surendetté et qui n'a pas de rentrée d'argent autre va avoir beaucoup moins de marge de manœuvre pour justement négocier ses prix. Donc si on se projette, on peut aussi imaginer des conséquences sur les prix agricoles qui n'iraient pas dans un sens où les agriculteurs auraient une rémunération plus digne par rapport au travail et à la production qu'ils fournissent. Globalement, il y a beaucoup d'aspects qui peuvent être abordés. Moi, j'ai essayé de faire à peu près court pour en ce qui me concerne sur mon témoignage en tant qu'ancien dans un bureau d'études. N'hésitez pas si vous avez des questions. Il y a vraiment plein de choses qui peuvent être ajoutées à ça. Et du coup, je vais passer la parole à Loïc. Merci.
Merci Guillaume. Bonsoir. Alors, je vais essayer dans les minutes qui suivent de développer et de présenter quelle est la rhétorique qui accompagne tous ces projets industriels, puisque à la conf, nous considérons que ce terme agrivoltaïque est un concept marketing. Et s'il y a des élus dans la salle, vous avez sûrement entendu cette phrase qu'il faut encadrer un projet photovoltaïque, il va falloir les encadrer, tous ces projets agrivoltaïques, et ainsi ils seraient plus présentables. Donc je vais essayer vraiment de déconstruire cette notion pour essayer de démontrer qu'il n'y aura pas d'encadrement de ces projets agrivoltaïques pour une simple et bonne raison, c'est qu'on n'encadre pas un concept marketing qui est pensé et qui est volontairement flou. Voilà. Et qui est volontairement flou dans le but premier de pouvoir s'accaparer du foncier. Alors, quels sont les ordres de grandeur qui sont concernés en termes de surface en France ? L'an dernier, le ministère de la Transition énergétique disait qu'il fallait couvrir 150 000 hectares de terres agricoles. La même année, RTE a sorti un rapport parlé de entre 80 000 et 200 000 hectares. On va dire 150 000 hectares, c'est à peu près la surface du département de l'Essonne, donc c'est pas négligeable. Et on a aussi le principal, je vais l'appeler propagandiste de ce terme, Christian Dupraz, qui l'a inventé, qui dans une tribune du Monde l'an dernier explique que pour couvrir les besoins électriques de la France et remplacer le parc électronucléaire, il faudrait couvrir jusqu'à 2% de la surface agricole utile, c'est-à-dire 500 000 hectares. Voilà, donc c'est des surfaces très importantes. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce que ces surfaces potentielles ne sont pas disponibles ailleurs ? En fait, si tous les rapports donc, de l'ADEME montrent que... je parlerai des rapports de l'ADEME après, juste pour garder les surfaces en termes d'hectares, on sait que par ailleurs, il existe 170 000 hectares de friches industrielles. Ça, c'est un préfet, je ne sais plus son nom, dédié à la prospection sur les friches industrielles qui vient de sortir ce chiffre. Et on sait aussi qu'il existe 450 000 hectares de zones d'activité économique. Ça, c'est un chiffre du CEREMA. Donc, toutes ces zones sont déjà amplement propices pour accueillir des parcs photovoltaïques. Si on parle en gigawatts, il faut savoir que Macron et Elisabeth Borne veulent une production qui va de 100 gigawatts de production photovoltaïque à 140 gigawatts de production photovoltaïque. Sauf que tous les rapports de l'ADEME démontrent qu'il existe déjà 176 gigawatts de friches industrielles, de parkings et de toitures industrielles. Voilà, 123 gigawatts de toitures industrielles. Si on rajoute à ces 176 gigawatts, on peut aussi rajouter, pardonnez-moi, on peut rajouter 241 gigawatts de toitures résidentielles. Donc en somme, on a presque 400 gigawatts de disponibles sans toucher une seule terre agricole, naturelle ou forestière. Voilà. Alors, la question qui se pose aussi, c'est pourquoi les industriels et l'État favorisent le déploiement sur les terres agricoles ? Uniquement donc pour des raisons financières. En fait, le surcoût que devraient payer les industriels pour mettre leur parc photovoltaïque ou leurs panneaux sur les toitures est de 500 millions d'euros annuellement. Alors ça peut paraître immense comme ça, 500 millions d'euros. Mais en fait, 500 millions d'euros dans un budget de l'État, c'est rien. Puisque le budget du déploiement des énergies renouvelables en 2014, c'était 33 milliards d'euros. Donc en somme, c'est 2% du coût du déploiement des ENR qui pourrait être budgétisé pour forcer les industriels ou les inciter, ou etc., par des crédits, à aller sur les toitures et à couvrir les toitures. Voilà. Donc c'est vraiment purement pour des raisons financières que l'État se rabat sur, et les industriels se rabattent sur les terres agricoles et financières. Alors comment... Pardon ? Et j'ai dit quoi ?
Financières.
Ça va devenir des terres financières, ça va être ça. Alors comment font les industriels pour arriver à convaincre des élus, à convaincre des paysans et des paysannes qui sont déjà dans la misère pour mettre ces panneaux? Alors j'ai identifié trois grands arguments majeurs que vous allez sûrement entendre en tant qu'élu, vous avez entendu un peu partout dans les médias. Justement, c'est que ce terme agrivoltaïque a été inventé dans le seul but de se différencier des autres projets photovoltaïques qui avaient de moins en moins une bonne presse à la fin des années 2000. Donc on va identifier deux types de projets, des projets agrivoltaïques qui seraient en synergie et qui rendraient service à l'agriculture et qui s'opposeraient à des vulgaires projets photovoltaïques qui seraient seulement complémentaires et qui cohabiteraient avec l'agriculture. Donc vraiment, il y a cet effet de distinction qui est tout le temps mis en avant par les industriels. Et cette seconde catégorie de projets, ces mauvais projets photovoltaïques, iraient sur des mauvaises terres ou des terres peu exploitables. Alors cette notion de mauvaise terre, elle est fortement contestable et les jeunes agriculteurs du 65 expliquent très bien qu'une mauvaise terre, c'est une terre qui est déjà bétonnée. Voilà. Qui plus est, c'était Lacombe du Val-de-Loire qui expliquait que ce sont sur ces soi-disant mauvaises terres qu'en fait s'est développée en France toute la polyculture élevage et que peuvent aussi se développer toutes les cultures de plantes aromatiques et médicinales. Bref, donc ces soi-disant projets photovoltaïques iraient sur ces mauvaises terres, terme que l'on récuse par ailleurs. Second argument que mettent en avant les industriels pour déployer leurs projets, c'est tout ce qui tourne autour de la notion d'ombrage, que l'ont dit Lola et Guillaume. Vraiment, au cœur de ces projets dits agrivoltaïques, entre guillemets, il y a cette notion de l'ombre. Et donc, tous les porteurs de projets vont dire, grâce à l'ombre que l'on produit, grâce à ce service et à cette synergie que ça va créer, on va aider l'agriculture, les paysans et les paysannes, leurs élevages, leurs plantes, à s'adapter au changement climatique. Et la production d'électricité ne sera que secondaire, comme une sorte de bonus qui viendrait par inadvertance, on n'y fait pas gaffe. On vous fait de l'ombre, et en plus ça produit l'électricité, mais c'est secondaire. Et c'est cette rhétorique-là qui a permis pendant des années à des industriels comme Sonagri dans les Pyrénées-Orientales et à bien d'autres de ne plus soumettre leur permis de construire auprès des DDT, et donc de faire des études d'impact, mais de directement soumettre leur permis de construire auprès des mairies qui sont bien moins armées juridiquement, parce qu'ils argumentaient en disant que leur projet photovoltaïque, agrivoltaïque, n'était plus là pour produire principalement de l'électricité, mais était là pour principalement créer un espace abrité en vue de faire de l'ombre. Voilà, donc c'était plus un projet de production d'électricité. Vraiment, ça c'est le second argument majeur, on produit secondairement de l'électricité, premier but, on s'adapte au changement climatique. Et troisième et dernier principal argument que mettent en avant les porteurs de projets et le gouvernement actuellement, c'est de tout faire en sorte pour que, tant dans les discours que dans les textes législatifs et réglementaires, tous ces projets photovoltaïques au sens large ne soient plus considérés comme étant de l'artificialisation. Puisque, pourquoi ça serait de l'artificialisation? Puisqu'on est soi-disant en synergie avec l'agriculture. Et ce qui peut pousser, par exemple, des prospecteurs, en tout cas un prospecteur qui expliquait à un chercheur qu'il avait travaillé sa phrase clé pour aller prendre des terres auprès des paysans et des paysannes, et ce prospecteur disait auprès des paysans et des paysannes « Je vais vous louer, enfin on va vous louer le volume d'air qui est au-dessus de vos terres. » Le volume d'air qui est au-dessus de vos terres. Donc si c'est un volume d'air qu'on loue, on n'artificialise plus, et en plus on va vous filer 1000 euros par hectare, ce qui est très peu, on pourra y revenir aussi. Dans les textes réglementaires, ce troisième argument sur la non-artificialisation est en train de se traduire actuellement par l'arrêté et le décret de la loi climat et résilience, qui fait qu'à partir du moment où des parcs photovoltaïques des rangées vont être espacées de 5 mètres entre les panneaux, ces parcs ne seront plus considérés comme devant être comptés dans les zones d'artificialisation de la loi zéro artificialisation nette. Voilà. Donc vraiment, il y a toute cette rhétorique qui est mise en place. Alors face à ça, avec la conf, on a décidé de porter un argumentaire qu'on tente de le plus clair possible, qui se base sur les notions et la défense de l'agriculture paysanne. Et au cœur de la défense de l'agriculture paysanne, il y a la notion clé d'autonomie. Et autonomie, en premier lieu, de son métier. Et l'autonomie financière. En somme, la question clé qu'on se pose, et qu'on s'est posée à la conf, c'est quel est notre métier ? Et notre métier, est-ce que c'est de cultiver des kilowatts ? Est-ce que c'est de produire de l'énergie ? Ou est-ce que c'est de produire une alimentation saine et de qualité, et d'être rémunéré en conséquence ? C'est vraiment ça, c'est que tous ces projets photovoltaïques ne prospèrent que sur l'endettement et la misère du monde paysan. En France, actuellement, on a 300 000 euros de dette par paysan et par paysanne. Voilà. Donc ça ne prospère que là-dessus. Et ce qu'on dit aussi avec la conf, c'est que tous ces projets ne font qu'ajouter une nouvelle dépendance porteuse d'une image plus vertueuse parce que énergie renouvelable à une dépendance plus historique à l'agro-industrie au sens large. Donc on rajoute une dépendance à une dépendance plus historique. Et donc ça va vraiment contre cette notion d'autonomie. Autonomie toujours, autonomie dans les pratiques agronomiques qui est au cœur de l'agriculture paysanne. Il y a un collègue du Lot qui dit « Nous, notre rôle n'est pas de devenir des jardiniers sous des panneaux. » Et au cœur de l'agriculture paysanne, il y a la notion de liberté d'action. Et à partir du moment où il y a des panneaux sur des terres, comme l'ont dit mes collègues, ça fige potentiellement ce que peuvent faire des paysans et des paysannes. Alors malgré le fait que l'ADEME veut des projets flexibles et adaptables, on voit mal, par exemple, des paysans et des paysannes, pour des raisons d'adaptation au changement climatique, qui font de l'élevage au vin, en avoir marre, et dire au promoteur qui a foutu 40 hectares sur leur terre, bah, écoutez, je voudrais bien que vous les enleviez, parce que là, je voudrais faire de l'arboriculture de plein vent et planter des amandiers qui vont faire 20 mètres de haut dans 30 ans. Les développeurs ne vont pas venir enlever les panneaux. Donc forcément, ça contraint la liberté de choix et la liberté d'action des paysans et des paysannes. Je ne développe pas ce point, mais juste, je le cite, les projets les plus en vue actuellement sont des projets d'informatisation via des algorithmes, des parcelles agricoles, et là aussi ça va contre la liberté d'action, puisque ce sont des algorithmes qui prennent le pas sur la décision des paysans et des paysannes. Dans l'argumentaire de la conf, ce qu'on vraiment on essaye de mettre en avant le plus possible, c'est quel est le rapport au monde que l'on souhaite entretenir en travaillant avec nos animaux, à l'extérieur, avec nos arbres, etc. C'est vraiment essayer de défendre un rapport sensible au monde. Puisque ce qu'on dit, c'est que quelle que soit sa surface, que le projet fasse 2000 m² ou 150 hectares, et quelle que soit sa participation citoyenne, donc précaution pour y revenir dans les questions avec ses projets citoyens et d'ouverture du capital et centrales villageoises, etc. Quel que soit tout ça, un projet photovoltaïque est un projet industriel. Et c'est une industrialisation des campagnes. Parce que très concrètement, c'est des tonnes de métal par hectare, ce sont des pieux qui sont plantés dans le sol, c'est des parcs qui sont totalement grillagés avec des caméras de vidéosurveillance, c'est des tranchées électriques dans tous les sens, c'est des onduleurs qui font du bruit aussi, et ça les autorités environnementales l'ont démontré. En somme, c'est une industrialisation des campagnes. Et si on veut une véritable bifurcation agroécologique, il faut pouvoir accueillir 1 million de paysannes et de paysans en France. Et pour cela, il faut aussi donner envie. Et est-ce qu'on aura envie de venir bosser sous des panneaux ? Eh bien, par exemple, les collègues de la Nièvre et de l'Aveyron disent ben, « Nous, un des plaisirs, c'est de pouvoir lever la tête, regarder le ciel et écouter le chant des oiseaux. » C'est vraiment ça. C'est aussi simple que ça. Voilà, y a pas, c'est pas forcément caricatural, c'est vraiment ça qui est au cœur aussi de la défense de l'agriculture paysanne. Pour en finir sur ce point, j'avais interrogé le président du lobby France Agrivoltaïsme, Antoine Nogier, qui lui expliquait qu'il ne trouvait pas ça moche, ces 7 tonnes de métal par hectare. Donc il y a vraiment cette différence de rapport au monde qui est vraiment à noter. Un dernier mot sur l'argumentaire de la conf. Il y a plein de choses à dire, mais ce que ça va remettre en cause, tous ces projets, c'est la question du statut du fermage et du bail rural. En somme, le statut du fermage actuellement complique la donne et la tâche aux industriels. Pourquoi ? Parce que dans le bail rural, c'est un statut qui est plutôt protecteur pour les paysans et paysannes. Parce que les paysans et paysannes peuvent jouir tranquillement de leurs biens sans que le propriétaire débarque sur leur terrain pour X raisons. Voilà. Sauf que faire un bail rural avec un projet photovoltaïque dessus, c'est pas possible parce que les porteurs de projets, les industriels, doivent venir tout le temps faire de la maintenance, changer des panneaux, mettre des piquets, etc. Donc c'est incompatible avec ce bail rural. Donc ce que font les porteurs de projets, c'est qu'ils veulent mettre fin, ils sont en train concrètement de mettre fin au bail rural et au statut du fermage, ils proposent des conventions agrivoltaïques tripartites. Ce qu'on en sait actuellement, ça, ça vient d'un projet des Landes qui s'appelle Terraboot sur 700 hectares, c'est que le propriétaire du terrain, si ce n'est pas le paysan ou la paysanne, fait une mise à disposition auprès de la société agrivoltaïque de ses terrains, contre rémunération, et la société agrivoltaïque va signer une convention de rémunération auprès des paysans et des paysannes qui vont entretenir les terrains. Donc il y a ce jeu-là, mise à disposition de propriétaires auprès de la société, et la société convention rémunérée, et ce qui donne des choses comme dans le Lot, par exemple, on a des paysans et des paysannes qui font pâturer leurs brebis sous 90 hectares de panneaux et qui touchent 30 000 euros par an. Donc c'est de la rémunération du salariat déguisé. Voilà. Donc ça devient, les paysans et les paysannes deviennent des sous-traitants de l'industrie énergétique et ils sont salariés par l'industrie énergétique. Est-ce que c'est ça qui est au cœur de notre métier qu'on a envie de défendre? Et on s'est dit à la conf, bah, non. Bon, bref. Là, j'ai essayé vraiment d'en terminer sur cette partie-là, puisqu'elle me semble importante. Je vais essayer de démontrer, comme je l'ai un peu annoncé en intro, que ce concept-là, marketing, qui relève du flou, n'est pas encadrable. Et donc je vais vraiment en arriver sur la loi d'accélération des énergies renouvelables, le décret d'application, puisque c'est ça qui va être au cœur des débats des élus et des CDPNAF. Et je vais rapidement essayer de réesquisser comment ce concept agrivoltaïque est né, et comment au fil des années, il s'est adapté en permanence pour essayer, comme je vous le disais, de s'accaparer le plus de foncier. Alors ce concept est né en 2009, de la rencontre de deux personnages que sont Christian Dupraz, agroforestier très connu, bénaillé du CNRS, et d'un entrepreneur, Antoine Nogier, qui dirigeait la boîte Sener. Et ce concept agro-voltaïsme est apparu dans un contexte où les projets photovoltaïques avaient de moins en moins bonne presse, puisqu'il y avait une circulaire et un décret qui interdisaient leur déploiement sur les terres agricoles. Donc ils ont forgé ce terme à ce moment-là, avec, dans leur esprit, deux préalables, qui est vraiment au cœur de tout l'argumentaire actuellement, tant de la FNSEA que de la coordination rurale, c'est de dire que, oui, les paysans et les paysannes, eux ils disent pas paysans et paysannes, mais bref, peuvent être des producteurs d'énergie électrique. C'est vraiment ça. C'est vraiment l'argumentaire qui est au cœur, enfin qui était préalable à la constitution de cette notion. Et second préalable qui a permis la création de cette notion, c'est que Christian Dupraz, dans ses discours, se met à comparer les arbres à des panneaux photovoltaïques. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment ça, sachant que c'est pas forcément comparable. Au départ, cette définition est très simple. Dupraz et Nogier expliquent que c'est une simple association. On ne parle pas de synergie, etc. C'est une simple association, production électrique, production agricole, au départ. Cette notion va évoluer, je passe les années, en 2018. En 2018, c'est la première fois que l'administration va employer le mot agrivoltaïque. Voilà, c'est vraiment en 2018 que ça commence à prendre de l'ampleur. Et c'est la Commission de régulation de l'énergie qui, elle, non seulement va employer le mot, mais va expliquer que l'on peut considérer qu'un projet est agrivoltaïque à partir du moment où la production d'électricité est secondaire. C'est l'argument rhétorique dont je vous parlais tout à l'heure. Là, la production d'électricité est secondaire. Et là, on se demande bien comment la production d'électricité peut être secondaire, vu qu'elle va rapporter des millions, ce qui ne peut pas se comparer à la production agricole. Mais elle est secondaire. Bon, voilà. Et autre notion clé qu'apporte la Commission de régulation de l'énergie, c'est qu'elle doit être en synergie. En synergie, terme à la mode sous Macron, mais donc c'est en synergie. Voilà. J'en viens à l'année charnière 2021. En 2021, il se passe deux choses intéressantes. C'est que se constitue le lobby France Agrivoltaïsme, créé par Antoine Nogier, dont je vous parlais, qui a inventé le terme. Et en 2021, Antoine Nogier, avec son lobby France Agrivoltaïsme, crée le label AFNOR Agrivoltaïque, pour labelliser les projets agrivoltaïques. Donc c'est vraiment France Agrivoltaïsme qui, officiellement, a créé ce label. Ce label apporte apporte une chose nouvelle, c'est qu'il rapporte, il dit que peut être considéré comme agrivoltaïque un projet qui rend service à l'agriculture. Service, qu'est-ce que ça veut dire service ? Justement, en tout cas, il parle de service, et c'est aussi un projet qui, dont les panneaux vont couvrir 50% des terres. 50% des terres vont être couverts de panneaux, plus 10% qui vont être artificialisés, c'est-à-dire pistes, postes de transformation, grillage, etc. Ça fait quand même 60% de terres qui sont couvertes, et ça, c'est considéré, labellisé par la FNOR, etc. Deuxième temps qui se passe en 2021, qui est important, c'est que Christian Dupraz, le second personnage agroforestier qui a inventé le terme avec Nogier, ne chôme pas lui non plus en 2021, et il coécrit le rapport de l'ADEME qui va légitimer ce terme agrivoltaïque. Et alors là, l'ADEME, c'est intéressant parce qu'ils vont essayer de complexifier pour rendre plus acceptable auprès de la population et des décideurs ce terme agrivoltaïque. Alors là, l'ADEME explique très bien que peut être considéré comme agrivoltaïque un projet qui rend non plus un service ou des services, mais quatre services. Et parmi ces quatre services, il y a l'amélioration du potentiel agronomique, on pourra y revenir après, qu'est-ce que ça veut dire, l'adaptation au changement climatique, qu'est-ce que ça veut dire que s'adapter au changement climatique, l'amélioration du bien-être animal, entre des arbres et des panneaux, on peut vous demander ce qu'ils auraient préféré, et quatrième service, lutte contre les aléas. Parenthèse, c'est presque une boutade, mais les sénateurs ont repris cette lutte contre les aléas comme devant être un des critères, et sauf qu'en fait, ça pouvait très bien être lutte contre les aléas financiers. Donc, il n'avait pas précisé, donc ils ont dû le repréciser dans une loi ultérieure, tellement ils étaient sûrs. L'ADEME, pour en finir là-dessus, elle redit aussi que la production d'électricité doit être secondaire, etc., et qu'elle doit être en synergie, bref, on reprend là-dessus. J'en viens à l'année 2022, et j'en terminerai par le décret. 2022, il se passe une chose importante, c'est plus qu'une consécration, on a Emmanuel Macron qui, pour la première fois dans son discours de Belfort en février 2022, parle d'agrivoltaïque. Pour Macron, qu'est-ce qu'un projet agrivoltaïque ? Il dit que c'est un projet qui doit apporter des revenus complémentaires. Voilà. Donc il assume ça, les paysans et les paysannes doivent pouvoir vivre d'un revenu complémentaire de la vente d'électricité. Alors on oublie les prix rémunérateurs, ils vivent de son métier, ça c'est pas son sujet, ils vont vivre de ce revenu complémentaire de la vente d'électricité. Dans le même temps, on a une résolution au Sénat qui dit, aussi écrite par le lobby France Agrivoltaïsme, qui dit qu'est-ce qu'un projet agrivoltaïque ? Pour le Sénat, en 2022, c'est un projet qui va être dynamique. Dynamique, alors synergique, secondaire, électrique secondaire, mais là c'est dynamique. Dynamisme, c'est-à-dire ça va être via des algorithmes, via des parcelles bourrées de capteurs qui vont gérer les parcelles via de l'intelligence artificielle. Voilà, donc on évolue dans cette notion, c'est du dynamisme. On a la même année. Alors ça, c'est assez rigolo pour montrer que la notion est toujours très floue. On a une mission flash au Parlement d'une agricultrice bio parlementaire macroniste Sandrine Lefeur qui explique que tant la production d'électricité que la production agricole doivent être toutes les deux significatives. Alors que jusqu'à maintenant, on était sur la production d'électricité qui doit être secondaire. Là, elle dit, attendez, non, il faut quand même que la production d'électricité soit elle-même significative. Qu'est-ce que ça veut dire significatif ? On ne le sait pas trop. Et donc, elle tente une définition. Elle dit, il faut qu'il n'y ait pas trop peu de production d'électricité, mais il faut qu'il n'y en ait pas trop non plus. Et c'est tel quel dans le texte. Hein. Donc comprenne qui pourra, on ne sait pas trop. On en était là. On en était là jusqu'à ce que Macron, dans le débat de l'entre-deux-tours, face à Marine Le Pen, lâche le mot agrivoltaïsme, qui là devient non plus dynamique, synergique, etc., mais il devient raisonné. Voilà, c'est de l'agrivoltaïsme raisonné. On voit la FNSEA qui est en embuscade, par derrière avec un terme qui est souvent employé par la FNSEA sur l'agriculture raisonnée, etc. Le rapport de l'ADEME dont j'ai parlé est définitivement publié 7 jours après. Je passe sur le décret, etc., et la loi du Sénat qui arrive à l'automne en faveur de l'agrivoltaïsme pour en arriver à la loi d'accélération des énergies renouvelables à l'automne, en décembre 2022, donc il n'y a pas très longtemps. Pour cette loi, qu'est-ce qu'un projet agrivoltaïque ? Alors là, ça reprend tous les 4 services que je vous ai évoqué de l'ADEME. Parenthèse, il faut que je vous en parle. Pendant les débats préalables à cette loi, enfin au Parlement, il y a le chef de file Europe Écologie Les Verts qui était pour les projets agrivoltaïques. Europe Écologie Les Verts était pour. Et c'est pour vous montrer vraiment dans quel contexte, dans quel flou artistique s'est voté la loi et est en train de s'écrire le décret d'application que, en tant qu'élu, si vous êtes élu, ou autre, vous allez devoir gérer ça. Donc Charles Fournier, référent Europe Écologie Les Verts sur ce projet de loi, lui parle d'agrivoltaïsme sur des zones qui sont déjà artificialisées. Alors on ne comprend pas trop, parce que si c'est déjà artificialisé, on ne peut pas faire d'agriculture. Mais lui, il défend ça. Il dit « je veux de l'agrivoltaïsme sur des zones qui sont déjà artificialisées ». Ok. Et il rajoute, pour essayer de clarifier son propos, qu'il veut de l'agrivoltaïsme qui ne soit pas au sol. Et c'est ça qu'ils défendent. Je vous passe toutes les autres définitions abscon qui se sont développées parmi tous les groupes parlementaires. Résultat, décret d'application qui est en cours d'écriture et qui n'est toujours pas sorti, et qui tente d'encadrer ce concept marketing qui est volontairement flou. Ce que j'essaie de montrer, c'est que on ne peut pas l'encadrer et que ce décret n'encadrera strictement rien. Voilà, et qui va laisser un grand flou d'interprétation volontairement. Dans un seul but, c'est que les industriels puissent déployer le plus facilement tout un tas de projets photovoltaïques qui vont être labellisés agrivoltaïques, mais qui seront au final des panneaux sur des terres agricoles et donc une industrialisation de l'agriculture. Premier critère que le décret met en avant pour considérer que un projet peut être considéré comme agrivoltaïque. C'est un projet qui améliorerait le potentiel agronomique des terres. Alors qu'est-ce que ça veut dire que améliorer le potentiel agronomique des terres? Entre autres, pour ce décret, on peut considérer que le potentiel agronomique des terres est amélioré à partir du moment où il y aura le maintien d'une baisse tendancielle des rendements qui est observée localement. Donc s'il y a une baisse tendancielle des rendements qui est observée déjà localement, mais que les panneaux la maintiennent, cette baisse tendancielle des rendements, ça va être considéré comme rentrant dans le critère de l'amélioration du potentiel agronomique. Alors là, on commence à nager, mais c'est ce genre de flou qu'on gère depuis plusieurs mois au ministère et pour lequel lutte en faveur de ce genre de définition la FNSEA et la coordination rurale. Second critère qui permet, selon ce décret, de considérer comme un bon projet agrivoltaïque des panneaux sur des terres, c'est un projet qui permettrait à l'agriculture de s'adapter au changement climatique. Idem, qu'est-ce que veut dire pour ce décret s'adapter au changement climatique? C'est pouvoir maintenir cette baisse tendancielle des rendements agricoles. À partir du moment où les panneaux vont maintenir cette baisse tendancielle des rendements qui était déjà observée localement, on pourra considérer que c'est une adaptation au changement climatique. Ce qui est totalement absurde. Qui plus est, il y a d'autres critères qui sont mis en avant, mais d'autres critères que remplissent largement des arbres, et voire bien mieux, je ne développe pas, on pourrait y revenir plus tard. Troisième critère pour considérer un bon projet agrivoltaïque selon ce décret, c'est l'amélioration du bien-être animal. Bon, je vais passer sur la comparaison arbre-panneau, mais il y a déjà des articles du Code rural qui obligent à ne pas laisser des panneaux, des animaux, dans des zones sans arbres. Voilà, qui ne sont pas respectés, bref, il faut toujours qu'ils puissent s'abriter. Mais ça, donc, que vont faire des panneaux plus que ça? Bon, bref. Quatrième critère. Qui permet, selon ce décret, de considérer un projet comme étant agrivoltaïque et non pas simplement photovoltaïque sur des terres incultes. Ce quatrième critère, c'est que les projets vont pouvoir maintenir un revenu durable. Qu'est-ce qu'un revenu durable? Selon ce décret, c'est un revenu qui peut être égal à la moyenne des revenus des années précédentes. Sauf que la question qui vient, si ce revenu n'était déjà pas durable, c'est-à-dire que si les prix n'étaient pas rémunérateurs, si ça conduisait à la faillite de la ferme et des paysans et des paysannes, est-ce qu'on peut considérer que c'est un revenu durable? Pour le décret, oui. Voilà, totalement abscon. Cinquième et avant-dernier critère, qu'est-ce qui fait, selon ce décret, qu'est-ce qui peut permettre de considérer que ce sont des bons projets agrivoltaïques? Il faut que l'activité agricole soit principale. Qu'est-ce que ça veut dire que l'activité agricole soit principale à partir du moment où il y a des millions qui sont vendus avec de la vente d'électricité qui, entre parenthèses, est soi-disant secondaire. Donc, activité agricole principale selon ce décret, ça va être considéré à partir du moment où le taux de couverture des panneaux sur les terres ne dépasse pas, et c'est là tout l'enjeu des débats, ne dépasse pas 40% de la parcelle agricole. 40%. Plus 10% de zones artificialisées avec les grillages, les onduleurs, enfin les postes de transformation, les pistes, etc. 40%. Sauf que, parenthèse, ce qui se passe, et ce qui fait que le décret n'est toujours pas sorti, appliqué, c'est que les jeunes agriculteurs, qui font semblant d'être contre, mais en fait qui sont pour depuis le départ, disent 40% c'est trop. Il faut baisser ce pourcentage et il faut descendre à, je crois qu'ils demandent 30%. Ouais, 20, et encore ça dépend des cultures, parce qu'il faut faire 20, voilà, 20%. Voilà, donc tout ce jeu est là, est-ce qu'on couvre 20% pour considérer que la parcelle agricole, l'activité agricole est principale ? Ou 40%, etc. L'ADEME disait 30%, voilà, la FNSA en veut 40%, et forcément les développeurs, ils en veulent le plus possible pour pouvoir produire le plus possible d'électricité, qui du coup n'est plus tant secondaire à leurs yeux. Bref, dernier critère. Qui permet à, au ministère et à tout le monde de considérer que ce sont des bons projets agrivoltaïques selon ce décret d'application qui n'est toujours pas sorti, il faut que la production agricole soit significative. Souvenez-vous de cette notion significative selon Sandrine Lefeur, pas trop peu d'électricité, mais pas trop non plus. Du coup, là, on en est au fait que qu'est-ce que c'est qu'une production agricole significative ? Ben, pour le ministère et pour les syndicats majoritaires, il faut que la production ne soit pas... la production peut descendre jusqu'à 20%. Elle peut être 20% inférieure à ce qu'elle était les années précédentes, par rapport à un référentiel défini localement ou par rapport à la production localement. Donc en fait, si les paysans et paysannes qui vont mettre des panneaux produisent 20% en moins de leur rendement par rapport à un référentiel qui sont arbitraires, et Guillaume pourra développer par rapport à... Enfin, qui sont construits de façon un peu... beaucoup de bricolage selon les départements et par rapport au chiffre d'affaires l'année précédente, ben on va pouvoir considérer que ce sont de bons projets agrivoltaïques et non pas de vulgaires projets photovoltaïques. Et j'en conclue, du coup. Ouais, j'en suis vraiment sur la conclusion. En somme, ces projets agrivoltaïques, ce terme agrivoltaïque, ce concept et cette pratique marketing agrivoltaïque n'avaient qu'un seul but, être une sorte d'arbre visant à cacher une forêt de déploiement de projets photovoltaïques sur les terres agricoles, naturelles et forestières. Et d'ailleurs, avec la CONF, on ne parle uniquement que de projets photovoltaïques sur des terres agricoles, naturelles et forestières. Et on pourrait tenter de comparer ça, de faire cette comparaison. Tous ces projets photovoltaïques, quelle que soit l'ampleur qu'ils vont prendre, et j'espère qu'ils en prendront le moins possible, vu l'opposition qui s'y met un peu partout en France, mais quelle que soit la surface concernée au final et actuellement, on peut comparer ça à des perturbateurs endocriniens. Puisque tant sur l'atteinte à l'agriculture paysanne que sur le prix du foncier, la zizanie que ça va créer, on n'a pas parlé, mais des terres avec des projets photovoltaïques coûtent 10 fois plus, jusqu'à 40 000 euros par hectare, par rapport aux 6 000 euros en moyenne